Sud Radio, l'œil de l'expert.
L'œil de l'expert aujourd'hui avec Katia Chapoutier. Bonjour Katia.
Oui.
Bonjour, vous êtes journaliste, réalisatrice. On vous a déjà reçu dans cette émission. Je voulais vous recevoir puisque demain, le magazine Infrarouge va diffuser un documentaire que vous avez réalisé, Des vies sans école. Ce sera à 23h05. Évidemment, c'est accessible en replay. 62 000 enfants apprendraient en dehors des murs de l'école. C'est un sujet qui est dans l'actualité puisque le gouvernement réfléchit à interdire la scolarisation en dehors de l'école. Comment vous vous êtes intéressé à ce sujet et ce que vous en avez, enfin on va avancer. Comment vous vous êtes intéressé à ce sujet?
Alors moi au départ je suis une fille de l'école, donc ouais. Le sujet, l'idée, elle vient pas de moi, c'est le producteur Louis Coat qui, ouais. Je pense parce que j'ai 4 enfants, m'a parlé de ce sujet-là. Honnêtement, au début ça m'angoissait un petit peu parce que les rares cas que je connaissais, je trouvais que c'était, enfin, ça faisait pas envie. Mais en fait, c'est surtout que je connaissais pas le sujet. Et une fois que j'ai commencé à m'y intéresser, à me plonger dedans et à partir à la rencontre de famille, alors là, tous mes préjugés ont volé en éclats. Et j'ai été très, très étonnée des rencontres que j'ai faites.
Oui, alors que de nombreux parents sont heureux et soulagés aujourd'hui de voir que leurs enfants prennent le chemin de l'école, parce que c'est pas toujours évident d'avoir des enfants à la maison. On voit dans votre documentaire que c'est un vrai engagement des parents, qu'ils sont motivés, qu'ils sont effectivement très, très engagés. Mais la plupart de ces enfants, ceux que vous avez suivis, c'est des enfants pour qui ça se passait mal à l'école.
En fait, là, ce que j'ai voulu, moi, j'ai voulu rencontrer des gens pour qui cette école à la maison se passait bien, mais oui. Je voulais aussi des gens qui n'étaient pas en colère contre l'éducation nationale et des gens qui n'étaient pas prosélytes, parce que j'avais juste envie qu'on écoute cette parole qu'on n'entend jamais. Et effectivement, 2 des 4 familles ont répondu à leur enfant qui était en grande souffrance et qui avait tous les deux sombré dans une dépression. L'un parce qu'il était au potentiel, dysorthographique, dyslexique, et que son maître, qui ne comprenait pas ses difficultés, l'a littéralement écrabouillé. Et donc, c'est un enfant qui, à 9 ans, parlait de mettre fin à ses jours. Et puis, l'autre jeune fille, Alexina, qui est aussi au potentiel, a subi du harcèlement scolaire, et au point de vomir le matin avant d'aller à l'école, tellement qu'elle avait peur des autres enfants. Et ces 2 enfants qui ont retrouvé le goût de la vie en faisant l'école à la maison.
Mais est-ce que c'est pas un peu facile, c'est la question que je me suis posée en regardant le documentaire, de se dire bah ça, mon petit chéri, ça va pas à l'école, ils sont méchants avec toi, donc tu vas rester à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de démission malgré tout quand on décide de scolariser à la maison? Alors ça se passe plutôt bien dans les exemples que vous avez montrés, même si c'est pas toujours simple, mais la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est pas un peu facile et une sorte de renoncement à aider l'enfant à affronter des difficultés?
Je pense que les deux enfants pour qui ça se passait mal à l'école, c'est des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. L'école, c'est formidable pour les enfants qui rentrent dans le moule et qui n'ont pas de complications. Pour des enfants qui ont de la dyslexie à haut niveau ou des difficultés pas comme les autres, pas qui ont besoin d'un peu plus d'attention, l'école n'est pas forcément un bon cadre. Et une fois que le gamin perd sa confiance en lui, ça peut très mal tourner. Moi, sur mes 4 enfants, j'ai 3 filles qui clairement ne pourraient pas évoluer en dehors de l'école tellement elles aiment ça. Mais j'ai un enfant qui est un peu plus fragile. Pas de bol, ça fait 2 années de suite qu'il a une mauvaise maîtresse. Et on peut imaginer qu'à un moment, l'enfant perd pied. Et je comprends tout à fait que des parents dont l'enfant dit qu'il ne veut plus vivre puisse avoir très peur. Et dans le cas de Léonard, où ça a été extrêmement difficile avec ce maître, c'est le médecin de famille qui a dit aux parents il est urgent de le sortir de l'école. Aujourd'hui, c'est un enfant qui a 18,5 de moyenne et une vie sociale extrêmement riche que malheureusement on n'a pas pu montrer à cause du contexte du Covid.
Oui, ça a été, oui, effectivement, c'était, vous l'avez tourné en période de Covid. On voit que pour les parents, il y a différentes méthodes et différentes manières de faire l'école à la maison. C'est pas forcément, certains ne suivent pas du tout le programme.
Absolument. On a coutume de dire qu'il y a autant d'écoles à la maison qu'il y a de familles, parce que chacun, au fur et à mesure, va trouver la méthode qui lui convient. Si on reprend l'exemple de Léonard, il suit le CNED avec un emploi du temps extrêmement chargé, calé et fonctionnel. Et puis, la jeune fille dont je parlais qui a eu une phobie scolaire, les parents lui ont fait découvrir l'escrime. La jeune fille est devenue une championne d'escrime. Donc, elle a tout un espace à côté pour l'escrime. Et puis, elle fait des cours de langue en plus avec des professeurs du bout du monde. Mais il y a aussi une famille qui a fait un choix extrêmement étonnant qui s'appelle le unschooling et non pas le no schooling. Et eux, il n'y a pas de programme. L'enfant apprend ce qu'il veut, comme il veut. Et là, on est vraiment dans une philosophie de vie extrêmement particulière.
Oui, et cette expérience-là, vous en avez pensé quoi, justement, de ce unschooling? C'est-à-dire qu'en gros, l'enfant se nourrit du quotidien, se nourrit de ses expériences, il voyage et il se forme d'une certaine manière par le contact quotidien de la vie, quoi, de la vie quotidienne.
Exactement. Alors, c'est des enfants qui, étrangement, lisent tard, mais ils lisent énormément. Ce sont des enfants qui ont une grande curiosité, mais surtout, ce qui m'a beaucoup troublée, c'est que j'ai assisté à des rassemblements de familles non-sco, comme on les appelle, où il y avait pas mal de unschooling. Et j'ai remarqué que c'est des enfants qui, contrairement à l'école où les 12 ans vont parler aux 12 ans et ils ne vont pas parler aux plus grands parce qu'ils en ont peur, et ils ne vont pas parler aux plus petits parce que c'est des plus petits, et bien là, ce sont des enfants qui parlent avec les enfants de tous les âges, qui parlent avec les adultes de tous les âges. Mmh. Et on voit dans ces rassemblements ce qu'on voyait dans les films des années 50, c'est-à-dire des bandes de gamins de tous les âges où le petit de 6 ans a le même droit à la parole que le gamin de 15 ans. Ouais. Et finalement, l'a priori qu'on peut avoir de dire qu'ils ne peuvent pas socialiser, eh bien si, ils socialisent parce que tous ces enfants-là ont énormément d'activités qu'on appelle normalement extrascolaires et qui les amènent à côtoyer des enfants de tous les âges. Et puis, ils ne sont pas formatés par un principe de vivre toujours avec les enfants du même âge.
Ouais. Oui, moi,
c'était cette question-là sur les familles qui ont choisi le CNED. Est-ce que finalement, on ne se forme pas aussi à l'école, à la moquerie, aux différents camarades, et puis on se partage la télé qu'on a regardée? Est-ce que finalement, ces enfants ne se créent pas leur propre univers tout seuls?
Ils ont une vie sociale beaucoup plus riche que les enfants qui vont à l'école parce que ils ont une vie sociale sur le net. Les familles qui font l'école à la maison très souvent se retrouvent entre eux pour faire des activités. Et encore une fois, ils ont tous à côté des activités sportives, des activités artistiques. Et c'est assez chouette de voir, puisqu'ils ont plus de temps, ils peuvent se passionner pour des sujets et ils y vont vraiment à fond. Mmh. Et ce qui m'a le plus surprise, c'était, j'ai emmené ma fille qui adore l'école à un rassemblement pour qu'elle découvre un peu. Et c'est une fille qui est brillante à l'école et l'école, c'est sa vie, vraiment. Ouais. Donc, elle y est allée à reculons. Et en fait, à peine on est arrivé à ce rassemblement qui était donc dans un immense camping, que des gamins sont venus d'eux-mêmes nous parler et savoir qui on était. Et avec beaucoup d'aisance. Et là, elle s'est retournée vers moi, elle dit… Waouh, on ne pourra pas dire qu'ils ne savent pas communiquer cela. Donc, ils ont une vraie curiosité de l'autre. Et alors, ils ne sont pas dans la compétition, ça c'est clair. Ils sont beaucoup plus dans la coopération.
Oui, mais qu'est-ce que ça va donner comme adulte? C'est aussi la question. Alors, vous avez un jeune homme qui, lui, a été dans cette famille nombreuse, qui a été scolarisé à la maison, qui semble s'en sortir pas mal.
Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que… Alors, il y a peu de chances que ce type d'enfant fasse des écoles de commerce. On est vraiment dans des enfants qui explorent ce qui les intéresse et donc du coup qui vont pour la plupart faire des métiers passion. Mais on en voit qu'ils réintègrent tout à fait le système universitaire parce que s'ils sont motivés, ils trouvent les moyens de rentrer dans ce moule-là parce que ça fait sens pour eux. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ça donne des enfants qui vont vraiment aller vers ce qui les intéresse et qui se questionnent beaucoup sur ce qui les intéresse. Il y a une famille que j'ai rencontrée mais que je n'ai pas filmée où les quatre enfants ont décidé à partir de la seconde d'aller au lycée parce qu'ils voulaient avoir une vie plus indépendante, c'était se détacher de leurs parents. Ils ont trouvé que c'était très facile de s'intégrer à l'école. En revanche, ils ont trouvé qu'on passait beaucoup de temps à rabâcher les choses et ils ont trouvé que les profs manquaient de bienveillance parfois. Et eux ne se laissaient pas démonter par les profs, mais ils avaient plus tendance à vouloir aider leurs camarades qu'à effectivement être dans la moquerie ou dans le tiraillement, j'ai envie de dire.
Ouais. C'était des réactions d'auditeurs. Stéphane nous dit que c'est un constat réel d'échec de l'école à protéger les plus faibles et la méthode Blanquer va faire encore plus de dégâts. On pourra effectivement dire un mot sur le fait que Jean-Michel Blanquer, enfin, il y a une loi qui est en prévision pour interdire ces écoles à la maison, enfin, ou en tout cas ces écoles hors l'école. Johanna témoigne, nous dit je ne suis pas tout à fait d'accord avec la dame, donc avec vous. J'ai travaillé, je connais un petit garçon de 8 ans surdoué que ses parents ont enlevé de l'école parce qu'il s'ennuyait en classe. Aujourd'hui, c'est un petit garçon épanoui et heureux. Bah, c'est ce que vous dites. Toutefois, les parents sont d'accord qu'il faut bien s'occuper de ses enfants. Ça, c'est sûr. Ce petit garçon joue aux échecs avec des enfants de 15 ans et ils ont d'autres activités et d'autres sorties.
Elle est d'accord. Du
oui,
coup,
oui,
avec
donc vous êtes d'accord avec ce que dit Katia Chapoutier. Mais on voit, là on parle des enfants, mais on voit que pour les parents, avec encore une fois des méthodes très différentes, c'est une implication énorme.
C'est-à-dire qu'il faut être prêt à vivre 24 heures sur 24 avec ses enfants et 7 jours sur 7. Il faut avoir une certaine connivence intellectuelle avec ses enfants. Et je pense que les gens qui ont fait l'école à la maison pendant les confinements ont perçu qu'on est on ne matche pas avec tous nos enfants de la même manière. Je sais que chez nous, quand on faisait l'école à la maison, eh bien, il y a une de mes filles, c'était avec son papa. Mon fils, c'était avec moi. Et donc, voilà, il faut… Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on passe énormément de temps avec ses enfants, ça impacte d'autres choses. J'ai vu que dans beaucoup de familles qui font l'école à la maison, eh bien, il y a une évolution en termes d'écologie, de manière de se nourrir, c'est-à-dire que comme on prend extrêmement soin de leur intellect et de leur bien-être, eh bien, se prendre soin déborde sur les autres contextes et c'est assez intéressant.
Mais
je voudrais dire une chose par rapport à la loi quand même. Quand le gouvernement parle de séparatisme et de dérives idéologiques ou religieuses, ce qu'il faut savoir, c'est que a priori, selon des recherches qui ont été faites, on parle de 3000 enfants toute religion confondue qui serait sortie du système scolaire pour des questions religieuses. Donc, ça prouve une grande méconnaissance du gouvernement sur le sujet et ça, c'est un peu dommage.
Comment ils sont contrôlés justement par les institutions ? Et est-ce que les parents touchent de l'argent ?
Non, les parents ne touchent pas de l'argent et ça, quelque part, ils n'ont pas la location rentrée et c'est un peu injuste parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de matériel à acheter. Si vous décidez que vous allez faire l'école à la maison, vous devez faire une déclaration à la mairie. Le maire va venir voir dans quel contexte l'enfant évolue ou quelqu'un de la mairie. Et puis, évidemment, auprès de l'éducation nationale qui va organiser des contrôles tous les ans. Alors, ces contrôles, je dirais que c'est à hauteur d'homme, ça peut très bien se passer, comme ça peut très mal se passer. Tout dépend de l'état d'esprit de l'inspecteur ou de l'inspectrice. Mais ce qui est formidable, c'est quand on collabore et que l'inspectrice repart avec des références de bouquins qu'elle ne connaissait pas et que la famille entend les conseils qu'on peut lui donner. Et ça, c'est super. Et c'est Isabelle Filioza, la psychologue qui a beaucoup travaillé sur les émotions et le développement des enfants, qui disait que ce serait peut-être intéressant que les barrières soient plus poreuses, que les enfants qui font à l'école et à la maison puissent de temps en temps faire des projets avec l'école. Et puis que des fois, l'école ouvre un peu plus ses portes en allant dans des relations transgénérationnelles. Il y aurait des idées à prendre des deux côtés.
Et la loi, donc on a vu que les parents que vous avez suivis sont très remontés et décidés à se battre contre cette loi, mais qui devrait peut-être faire la nuance entre les écoles religieuses et ce type d'enseignement à la maison pour des enfants, ce que disent nos auditeurs, qui ne sont pas pris en compte par l'éducation nationale.
Oui, parce que ça, c'est vraiment, on voit à quel point, dès qu'un enfant ne rentre pas dans le moule, il y a une grande souffrance à l'école.
Bien sûr.
Après, comme le dit très bien la maman du jeune Léonard, il faut comprendre, les profs ont 30 élèves à amener bout de l'année. Et ils n'ont pas forcément le temps de faire du sur-mesure non plus.
Oui, c'est ce que nous dit une auditrice. Les enseignants ne sont pas formés pour reconnaître et s'occuper des enfants 10, souvent pris pour des débiles. Mon petit-fils a été pourri par ses profs. Il était dyslexique et dyspraxique. Effectivement, c'est un vrai sujet. En tout cas, je vous recommande vraiment ce documentaire demain soir dans la case infrarouge, 23h05 sur France 2, des vies sans école. Vous allez voir ces quatre familles très différentes qui ont choisi pour des raisons diverses de faire l'école à la maison et ça va effectivement à l'encontre, Katia Chapoutier, de bien des idées reçues sur le sujet. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.